RMC.
Très très dur à comprendre pour les femmes, le hors-jeu.
Il faut que je vous explique le hors-jeu. Si vous courez et que vous passez avant que le ballon soit parti, si un de vos copains, là vous êtes en position de hors-jeu.
Vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez plus le début, je vous écoute.
En tous les cas, pour les femmes comme pour les hommes, quand vous êtes tout seul, vous êtes pas bien. C'est clair?
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot, Nicolas Villas.
Ravi d'être avec vous, nous sommes ensemble pendant une heure. C'est parti pour une heure de bonheur, c'est parti pour une heure d'after. Avec nous ce soir dans cet after, Ludovic Obraniak. Bonsoir Ludo.
Salut à tous les amis.
Très élégant ce soir.
Comme toujours.
Pour une fois.
C'est pas du tout le cas parce que d'habitude il l'est, mais alors ce soir, je sais pas ce qu'il a foutu avec son t-shirt. Jonathan Macardy.
Salut les amis.
Parce qu'en fait, t'as un t-shirt qui est fendu, mais sur les côtés.
J'ai un t-shirt
jusque-là. Des
Guns N' Roses. De Use Your Illusion. Le meilleur CD de un des meilleurs CD de l'histoire de la musique.
C'est génial, mais le t-shirt est pourri. Hein.
Il est magnifique ce t-shirt.
Ouais, pas de face, ça se voit pas trop, heureusement.
Extraordinaire, arrête. Et les gens qui connaissent le CD reconnaîtront la cause de ce t-shirt.
Tout à fait. Messieurs, match amical de l'équipe de France féminine ce soir. On vous rappelle, on est à une semaine de la Coupe du Monde féminine qui aura lieu en France. Et les Françaises se sont imposées 2-1 face à la Chine, match qui a eu lieu à Créteil. Les Françaises qui ont un peu galéré quand même, c'était pas foufou.
Mais c'est pas la Chine ou pas?
Bah, elles sont qualifiées pour la Coupe du Monde. Voilà, c'est pas mal.
Non, la Chine était une grande nation, elle est redescendue un peu, elle revient tout doucement. Elle sera certes peut-être pas dans le dernier carré, mais c'est un bon sparring partner pour les Françaises ce soir.
Victoire 2-1 des Françaises donc face à la Chine à une semaine de cette Coupe du Monde que vous suivrez bien entendu sur RMC. Sachez qu'il y avait également un match de Coupe du Monde des moins de 20 ans. Alors la France qui était déjà qualifiée pour les 8e a assuré la première place de son groupe. Victoire 3-2 face au Mali. Coupe du Monde qui allait en Pologne d'ailleurs, la Coupe du Monde des moins de 20 ans. La France qui est qualifiée pour les 8e et qui affrontera les États-Unis le 4 juin prochain en 8e de finale. Sachez qu'aujourd'hui il y a eu également les tirages au sort de la phase finale de l'Euro des moins de 19 ans qui aura lieu du 16 au 29 juillet. Ce sera en Arménie. Dans le groupe B, il y a la France qui figure avec la République tchèque, l'Irlande et la Norvège. Dans le groupe A, on retrouve l'Arménie, le Portugal, l'Italie et l'Espagne. C'est pas mal ça aussi. Pour cette Euro, des moins de 19 ans. Et puis demain, il y a la finale, bien entendu, de la Ligue des Champions. Match entre Tottenham et Liverpool, match que vous suivrez sur RMC Sport. Duel notamment entre Jurgen Klopp et Mauricio Pochettino. On vous pose cette question au 32-16. On veut une réponse qui, de toute façon, sera très subjective. Vous êtes plutôt Klopp ou plutôt Pochett, justement. Vous êtes plutôt l'entraîneur de Liverpool, l'entraîneur de Tottenham, 32-16, pour y répondre avec nous. Vous avez une préférence, tous les deux, déjà, pour commencer ou pas?
Très marqué, bien sûr, oui. Pour Klopp.
Ouais, pourquoi?
Ah, c'est trop long à expliquer, mais pour Klopp.
Bah non, bah c'était là pour ça. Bah,
c'est trop long, non, mais c'est le débat, on commence maintenant,
Vas-y, on y va.
Mais parce que Jurgen Klopp, ce qu'il fait, je trouve ça extraordinaire en termes de jeu, d'esthétique. Et tout est résumé dans une phrase, il veut que ses équipes soient une symphonie d'heavy metal. Et je trouve ça extraordinaire. Et c'est exactement ça, il y a une intensité qui est malade, il y a un pressing, il y a une pression que ces équipes arrivent à mettre qui est assez extraordinaire, il y a du dépassement de soi à chaque ligne, donc oui, bah Jurgen Klopp pour moi.
C'était long à expliquer.
Bah non, mais ça peut être plus long, mais là c'est résumé.
Ludo, je vais taper David. On attend David d'Ortolari, Julien Laurent, ça va, arrête de gueuler.
Écoute, j'ai forcément une affection particulière pour Jurgen Klopp, mais
pas forcément.
Bah parce que tu sais que j'apporte beaucoup d'importance au côté psychologique du métier d'entraîneur et je trouve que lui le fait à merveille. Cette équipe, elle est son total reflet, donc ouais, j'aime beaucoup ce qu'il véhicule, à savoir que Pochettino aussi son équipe est son égal reflet, donc il a un côté parfois un peu plus drôle et sympathique. J'aime beaucoup cet entraîneur là mais je l'ai connu moi quand j'étais en Allemagne, quand je jouais du côté du Werder de Brême, donc j'ai eu l'occasion de le voir de près et c'est assez impressionnant.
Après, qu'on s'y trompe pas, hein, les deux sont deux très grands entraîneurs, c'est difficile de choisir. Les deux, chacun dans leur style, ont quelque chose de différent.
C'est toujours difficile de comparer parce qu'ils entraînent pas forcément les mêmes équipes, etc. Il a commencé d'un peu plus bas. Pochettino, d'ailleurs, il dit souvent que sa plus belle expérience d'entraîneur,
l'Espagnol.
Exactement, c'est d'avoir sauvé l'Espagnol. Il avait repris l'équipe en cours de saison, ils étaient complètement largués, il les a finalement sauvés. Il a un palmarès, Klopp, ce que n'a pas encore Mauricio Pochettino. Il a été deux fois champion d'Allemagne avec Dortmund, il gagne une Coupe d'Allemagne, il a deux super coupes d'Allemagne également. Mais il a également six finales perdues, Jürgen Klopp, dans sa carrière, deux finales de Coupe d'Allemagne, deux finales finale de Ligue des Champions, une finale de Ligue Cup, une finale d'Europa League également. Et d'ailleurs, Klopp, il a été interrogé là-dessus aujourd'hui en conf de presse sur c'est finalement ce statut de loser entre guillemets. Il a déclaré je n'ai rien appris réellement des finales précédentes. Les circonstances sont différentes, les adversaires sont différents, c'est toujours différent. Si je suis la raison des 6 défaites consécutives en finale, il y a de quoi s'inquiéter. Nous avons beaucoup appris depuis les dernières finales. Nous sommes une équipe complètement différente de l'année dernière. Et il poursuit, depuis 2012 à part 2017, je suis en finale. Je suis probablement le détenteur du record du monde des sept dernières années en demi-finale gagnée. Si je me voyais comme un loser, j'aurais un problème, mais je ne vois pas ça comme ça.
Bien sûr.
Ce n'est pas comme c'est pour ça que nous sommes ici, pour gagner un trophée. Je peux toujours prendre confiance avec ce record.
Mais il a raison. Parce que regarde, si tu compares la physionomie et la typologie, ne serait-ce que de la finale Dortmund-Bayern et de la finale perdue l'an dernier contre le Real Madrid, ça a rien à voir. Dortmund-Bayern, c'est contre une équipe qui était un rouleau compresseur. Le Bayern, c'était un Bayern qui était extraordinaire cette année-là, avec un Thomas Müller, un Philipp Lahm qui était en feu. Et puis là, l'année dernière, tu perds cette finale, mais le score est peut-être un petit peu lourd. Mais bon, le but de Bale... il est magnifique, hein, mais c'est un but qui est un peu extraordinaire. Et quand tu regardes la physionomie du match avec la concussion, enfin, je sais pas comment on dit, concussion, ça se dit en français ?
La commotion. La commotion, voilà.
La commotion de Karius qui fait cette boulette. Ce match-là où tu perds Salah très très tôt dans le match. Au final, tu regardes les deux équipes, ce que les deux équipes proposent, ça reste assez proche.
Donc, accueillons Julien Laurence et David Lortolari pour évoquer ce combat de demain entre Pochettino et Klopp. Bonsoir les gars.
Salut à tous.
Salut les gars.
Salut les gars.
À tous.
Julien, est-ce que t'as une préférence toi entre les deux, toi qui les suis au quotidien, ces deux coachs en première ligue?
Oh, c'est difficile, sincèrement, c'est vraiment difficile pour les avoir interviewés tous les deux plusieurs fois cette saison. Ils ont un charisme. Non, c'est sans cette copain, non, mais ils ont un charisme
un peu,
déjà incroyable tous les deux.
Ils t'invitent au resto, ils tracent un peu, c'est ça le problème.
Ouais. Non, mais alors déjà le charisme. Assez incroyable quand ils entrent dans une pièce, tu sens il y a vraiment quelque chose qui se passe, un peu comme pour Guardiola d'ailleurs.
Comme quand Nico Villas rentre dans une pièce. Ouais.
Et après c'est vrai que au niveau des styles de jeu, il y a des similitudes entre leurs deux philosophies. Il y a aussi des différences forcément. J'ai un petit fait pour Pochettino parce qu'il a joué au PSG déjà, et quand j'étais jeune, je supportais le PSG et j'ai beaucoup apprécié Pochettino sous le maillot parisien, et d'aller au Parc des Princes le voir jouer, donc
il était invaincu.
Et on en a parlé ensemble, et
faut
c'est
le rappeler
vrai qu'il
pour les auditeurs
aussi...
sont plus jeunes, il était invaincu, il me semble, sous le maillot du Paris Saint-Germain.
T'es sûr de ça?
Je crois bien, ouais.
C'est Sorin qui est dans ce cas-là, mais
c'est Sorin,
je savais, mais Pochettino, je sais pas, non.
Vas-y, continue, c'est Julien.
Il
a mis son t-shirt, je sais pas où il était tout à l'heure.
Je suis pas sûr.
Bon, vas-y, continue.
Et donc, j'ai un petit fait pour Pochettino, et puis je trouve que Klopp, ce qu'il fait à Liverpool, c'est fantastique, et on en parlera un petit peu plus tard. Mais il a aussi bénéficié quand même d'un argent et d'un pouvoir financier venu des ventes, notamment de Luis Suarez et de Philippe Coutinho, que n'a pas eu Pochettino. Pochettino a dû construire cette équipe et son effectif sur 5 années, où il a fait progresser ses joueurs de la première année à la dernière année. J'ai une histoire très sympathique sur Heung-Min Son que je vous raconterai tout à l'heure. Et je trouve que dans cette difficulté-là de pas avoir les mêmes ressources financières que Liverpool et que Klopp, d'avoir une masse salariale beaucoup plus inférieure, par exemple aussi, je trouve qu'il mérite aussi beaucoup de crédit.
David, je te demande pas pour qui t'es, toi, demain.
Oui, moi, je peux vous donner un écho qui va vous intéresser. C'est l'écho profond et puissant, quand même, qui vient encore de la presse allemande, qui, évidemment, s'est emparée de cette finale aussi, quelque part par procuration, avec Jürgen Klopp, évidemment, puisqu'il n'y a pas de club allemand, comme vous le savez. Julien est le mieux placé pour en parler dans cette finale. Mais on a magnifié Jürgen Klopp, dans un premier temps, en Allemagne. On l'a ensuite un petit peu... on l'a mis sous le feu de la critique, parce que on avait l'impression qu'il devenait une caricature de lui-même, à la fin de ses beaux en Allemagne, de sa présence en Allemagne. Et puis on le magnifie à nouveau maintenant, peut-être aussi avec la distance. Et clairement, il y a plus trop de vision négative vue d'Allemagne sur cet entraîneur-là. Julien parlait de charisme, il a évidemment raison. On insiste beaucoup en Allemagne sur le côté humoristique aussi de Klopp, qu'on a l'impression qu'il se renouvelle régulièrement à ce niveau-là. Moi, j'ai pas de vision suffisamment complète sur son adversaire de demain soir. Mais en ce qui concerne Klopp, voilà, ce sont les deux principales choses qui sont soulignées encore aujourd'hui dans la presse allemande. Le charisme la capacité à mener l'équipe, et puis cet humour qui est quand même une carte très intéressante dans le football d'aujourd'hui.
Mais alors, puisque tu parles de ça, les deux étaient d'ailleurs de très bonne humeur en conférence de presse d'avant match aujourd'hui. Les deux ont fait de la vanne, c'est-à-dire Klopp, il a, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il a dit avec beaucoup d'humour, avec le sourire. On l'a aussi, il y a une question qui a été posée à Pochettino, on lui a dit, vous avez pas maigri là depuis que vous êtes qualifié en finale de Ligue des Champions, il s'est levé, il s'est mis en mode un peu mannequin pour montrer sa taille. Ouais. Ils étaient tous les deux de très bonne humeur finalement.
C'est bien. Ouais. C'est très bien. Après non, il y a quelque chose qu'il faut dire sur Klopp, qui à mon sens fait que c'est un entraîneur qui est vraiment à part relativement à Pochettino, c'est que je pense qu'il fait partie des facteurs qui ont mis fin au dogme de la toute possession de ce qu'avait instauré le Barça de Guardiola. Quand on parle maintenant, c'est un petit peu à la mode, de football de transition, d'une équipe qui va à 1000 à l'heure vers l'avant, qui est capable de se replier à 1000 à l'heure sur le plan de vue défensif. Je pense que le Dortmund de Klopp avec le Gegen Pressing, je sais pas comment tu dis David, c'est ça ?
Gegenpressing,
ça a vraiment instauré, un nouveau paradigme dans le paysage footballistique. Et alors qu'avant, au moment où Dortmund connaît son éclosion, t'étais vraiment dans cette espèce de dogme de ce dogmatisme de la toute possession, de devoir multiplier les passes, d'avoir le ballon à tout prix. Et lui, il a vraiment amené quelque chose de nouveau.
Êtes-vous plutôt Pochette ou plutôt Klopp? On vous attend au 32-16 pour répondre à cette question. Alors c'est une question d'ailleurs, c'est plutôt une préférence, on attend vos arguments. On va accueillir Pierre, tiens, qui nous a appelé justement au 32-16. Salut Pierre.
Bonsoir.
Salut. Alors Pierre, ta préférence toi entre Pochettino et Klopp?
Je pense que David il va être content, j'ai une petite préférence quand même pour Jürgen Klopp par rapport à ce qu'il fait. Tout à l'heure vous avez évoqué le fait que Pochettino il revenait de loin parce qu'il avait sauvé l'Espagnol. Et David va pouvoir me reprendre si je dis pas de bêtises. Jürgen Klopp, il a quand même commencé en Division 2. Il
est en ayant été joueur là-bas d'ailleurs avant. Hein.
Et il est parti du club quand le club est redescendu en Division 2. Et après, il est parti à Dortmund. Il a été champion avec eux. Certes, il y a cette finale perdue contre le Bayern Munich, mais ils avaient fait un énorme match contre le Real Madrid de Mourinho, où ils avaient notamment gagné 4-0 à domicile.
Exactement, avec Lewandowski, ouais.
Et c'est un entraîneur pour moi qui fédère beaucoup aussi dans les clubs où il est passé. Et j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et je pense que ça serait une belle consécration pour cet entraîneur qu'on peut rappeler. Il a fait quand même deuxième de Première Ligue en faisant quand même une saison extraordinaire. Et c'est quand même difficile à encaisser de finir deuxième avec les statistiques qu'ils ont eues. Et les finales qu'il a perdues contre le FC Séville de Nayemri ou contre le Bayern Munich.
Ouais, contre le Bayern était injouable cette année-là. Hein.
Je pense que ça serait quand même très bien pour lui et pour le peuple de Liverpool de gagner cette Champions League. Ça serait, justifié. Tottenham, j'ai beaucoup de respect pour eux, pour leur parcours et pour l'entraîneur aussi qui est incroyable. Après, il faut pas oublier qu'ils sont. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un petit facteur de chance du fait qu'ils ont gagné la dernière seconde contre Manchester City, ils ont gagné la dernière seconde contre l'Ajax. Ils n'ont pas volé les matchs, certes, mais j'aimerais vraiment voir les Reds demain gagner cette Champions League parce que l'entraîneur le mérite et aussi parce que le peuple de Liverpool peut-être attend ça depuis 2005.
Merci Pierre en tout cas d'avoir été avec nous.
Bye, merci.
Bonne soirée, salut Pierre, merci. Tiens, justement, parce qu'il y fait allusion, Julien et David, est-ce que finalement Klopp, il commence pas à avoir cette fameuse image de loser? Il y a répondu une fois de plus avec le sourire aujourd'hui en conf de presse, mais est-ce qu'en Allemagne, par exemple, on revient sur ces finales consécutives perdues là aussi?
Oui, évidemment qu'il y a un petit peu cet élément-là. Oui, il y a ce facteur-là. Et puis, moi j'ai envie d'élargir
David,
aussi très vite.
Il y en a une paire qui aimerait plus la loose comme lui quand même.
Ouais, c'est clair.
Je t'annonce.
Oui, non, mais c'est la série de finale en fait, c'est ça. On focalise là-dessus. Après, en Allemagne, il y a une dimension dont il faut que vous ayez conscience, c'est que Jürgen Klopp, presque aussi comme un Joachim Löw ou quelques autres, est devenu plus qu'un entraîneur de football. C'est devenu un personnage.
Exactement.
C'est devenu un homme de cinéma. Il tourne dans beaucoup de publicités. Il étale son humour aussi pour un constructeur automobile, par exemple.
David, il n'est pas vraiment devenu. Il est comme ça au naturel.
Il est tout à fait naturel. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça prend peut-être le pas aussi sur le côté... On est passé à autre chose en Allemagne aujourd'hui. Étant donné qu'il est parti en Angleterre et qu'il est susceptible d'y rester pendant un moment, on est passé à autre chose et on ne le voit, entre guillemets, presque plus que comme un personnage au-delà d'un entraîneur de foot.
Mais les gars, juste là, je pense vraiment la différence notable entre Pochettino et Klopp, c'est qu'au final, quand on refermera le livre de l'histoire de cette décennie de football, je pense que Klopp incarnera un style de jeu qui aura inspiré d'autres entraîneurs. Est-ce que Pochettino incarne vraiment un style de jeu?
Jonathan, moi qui jouais contre lui à Dortmund, quand il était à Dortmund, là où tu dis qu'il a contrecarré un peu cette vision dogmatique du football de possession, à Dortmund, il était l'illustre exemple en Allemagne du football de possession. C'est-à-dire quand tu jouais contre le Borussia Dortmund, celui que j'ai joué moi avec Lewandowski, Błaszczykowski, Reus et Mkhitaryan et toute la clique, Gundogan, c'était il jouait comme le Barça, hein. C'était, tu jouais contre eux, c'était pas que de l'attaque, c'était loin d'être de l'attaque rapide.
Alors,
c'était une équipe qui venait chez toi.
Je pense ce qui nous a fait penser ça, c'est surtout cette campagne qui est extraordinaire en Ligue des Champions, où c'est une équipe qui, voilà, c'est la première fois. T'es habitué à avoir des équipes qui voulaient avoir le monopole du ballon. Et quand tu as vu le Dortmund de Ligue des Champions en Ligue des Champions, c'est une équipe qui allait à mille à l'heure vers l'avant, qui était capable d'abandonner la possession.
C'est un homme qui comprend les changements. Il a compris que le football aussi c'était basé maintenant beaucoup sur la vitesse. Et oui. Or, quand il a récupéré Pierre-Emerick Aubameyang Bayern, il a commencé à essayer de changer un peu de schéma, justement, en se servant. C'est quelqu'un de, qui s'adapte beaucoup aussi aux joueurs qu'il a. Il arrive à imposer une patte qui est totalement complémentaire avec les joueurs qu'il a à sa disposition. Aujourd'hui, c'est plus intéressant de jouer, même s'ils sont capables de le faire, en attaque rapide avec les flèches que t'as devant, que de jouer en attaque placée.
Mais, Julien, juste, j'aimerais avoir ton avis là-dessus aussi, vas-y.
Et non, et cette saison, par exemple, avec Liverpool, il a aussi su faire évoluer le style de jeu de son équipe. Il joue beaucoup plus avec le ballon. Ils atteignent presque les 71% de possession de balle en Premier League, ce qui est énorme. Il y a que Manchester City qui a plus le ballon que cette saison en Premier League. Alors que la saison dernière, ils étaient beaucoup plus directs, Julien, peut-être, en allant beaucoup plus vers l'avant. Mais c'est ce qui leur avait fait défaut la saison dernière, c'est qu'il n'y avait pas de plan B, en fait.
Je pense qu'il faut pas regarder juste le chiffre de possession. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est la vitesse des phases de transition.
C'est ça.
Et je pense qu'il n'y a aucune équipe qui va aussi rapidement vers l'avant.
C'est le principe aussi du gegenpressing, c'est que dès que tu récupères le ballon, la première passe va vers l'avant, tout de suite. C'est ça aussi qui te permet d'avoir une transition beaucoup plus
rapide. Alors qu'on était habitué à ce rythme assez lent du Barça, où parfois t'avais l'impression qu'ils voulaient rentrer avec le ballon dans le but.
Demain, il y aura donc cette finale de Ligue des Champions entre Tottenham et Liverpool, le match entre Klopp et Pochettino. Êtes-vous plutôt Klopp ou Pochettino? Venez répondre au 32-16. On accueille Thibaut, qui lui est plutôt Pochettino. Salut Thibaut.
Bonsoir les gars.
Salut Thibaut.
Alors pourquoi Pochettino, Thibaut?
Alors je vais expliquer ça en trois points. Tout à l'heure, à l'instant, Jonathan disait que dans 10 ans, quand on se souviendra, quand on parlera football, on se dira que Jürgen Klopp a laissé une empreinte avec son,
avec un incarné un style
particulier. Voilà. En fait, oui et non, c'est-à-dire que Jürgen Klopp, c'est un entraîneur qui a quand même besoin d'avoir des joueurs qui correspondent à justement cette transition rapide. Là où Pochettino, c'est quand même un entraîneur qui s'adapte beaucoup plus facilement à l'effectif en place. Je me souviens de Pochettino à l'Espagnol, c'était pas du tout le même style que l'on peut voir avec Tottenham. C'était une équipe qui jouait avec des circuits bien établis, bien répétés, un jeu de possession, voire de position. Donc déjà, je trouve que Pochettino, c'est un entraîneur qui a une palette un peu plus large que Jürgen Klopp à ce niveau-là. Ensuite, ce que j'aime beaucoup chez Pochettino, c'est, je pense que ça va te parler, Jonathan, et voire Ludovic, c'est sa micro-tactique. Je trouve que c'est un génie à ce niveau-là. C'est-à-dire que à l'intérieur d'un match, il a une capacité d'adaptation, de lecture, de mise... presque d'approche minute par minute du match, et je trouve que ça c'est assez fantastique.
Des bons exemples, je pense que Julien pourra le confirmer, c'est les deux matchs, même s'ils sont perdus contre Liverpool, où il y a 3-4 changements tactiques sur l'ensemble du match.
Non mais là où il est bon aussi, c'est qu'il repère assez rapidement lorsqu'il s'engage dans une vision et qu'il voit que ça marche pas, il met pas une mi-temps pour réagir.
Non, c'est clair.
C'est-à-dire à chaque fois il a pu faire à un moment donné une erreur en mettant pas Moussa Sissoko d'entrée, il a vite rectifié le tir, il a fait jouer un offensif alors qu'il aurait pu faire jouer un défensif. Je crois que c'est le match contre City ou contre l'Ajax, je sais plus, Julien, tu m'aideras, où il aurait pu quand t'as le milieu de terrain qui se blesse à côté de...
Ouais, c'est Sissoko,
il fait rentrer un mec à vocation offensive, au mieux de le remplacer poste pour poste par celui qui avait joué avec Sissoko au match aller, je crois. Donc c'est une vraie... Il analyse très vite les choses et les besoins de son équipe. Il est très réactif comme entraîneur.
Mais c'est ça, vous avez tout dit.
Alors justement, sur ce point-là, Jonathan, le match qui lui a fait très très mal, c'est le huitième de finale retour contre la Juve à Wembley la saison dernière. Ce match-là, il manque complètement sa deuxième mi-temps. C'est-à-dire que quand, Tottenham déjà aurait dû gagner le match aller à Turin. Au match retour, il mène 1-0. Tout va très bien, il contrôle le match. Et en seconde période, il y a les deux buts turinois, dont notamment celui de Dybala. Et en fait, il réagit pas tout de suite. Il réagit pas tout de suite. Il est, je me rappelle encore très très bien, il est debout devant son banc de touche et il sait pas quoi faire. Et il est complètement perdu, il sait pas quoi faire. Et Allegri a déjà remporté la bataille tactique de cette seconde période en changeant ce qu'il avait à changer. La Juve marque deux buts, gagne 2-1, se qualifie. Et c'est un des plus gros regrets de la carrière de Pochettino à Tottenham sur ces cinq années-là. Parce que vraiment, ce match-là, ça lui a fait très mal dans sa façon dont il n'a pas su réagir à ce qui se passait devant ses yeux et à ce que l'entraîneur adverse avait lui fait. Et je pense qu'il a énormément appris de ce match. Je sais que quelqu'un m'avait raconté qu'il avait regardé le match peut-être 10 fois, presque d'affilée après cette défaite, justement, tellement elle avait fait mal. C'est jamais de la vie, ils auraient dû être éliminés par la Juventus la saison dernière. Et ça lui a fait énormément de mal et je pense qu'il a énormément appris de cette rencontre.
Pour retailler mon propos, Julien, c'était, il me semble, au match retour contre Man City, Sissoko se blesse et il fait rentrer
Llorente. C'est ça, 41e minute.
Et il fait rentrer
Llorente.
Et il fait rentrer Llorente, alors qu'il aurait pu faire rentrer comment il s'appelait là, le jeune au milieu.
Alors Wings n'était pas là, mais il avait effectivement, il y avait d'autres options quand même sur le
milieu terrain. Ouais.
Pour finir, Thibaut, sur Pochettino.
Oui, alors donc moi, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est sa capacité de lecture. Donc vous l'avez bien détaillé. D'ailleurs, pour parler du match contre la Juve la saison dernière, faut se souvenir que même au match aller, ils sont menés 2-0, ils reviennent à 2-2. C'est une équipe qui a une vraie capacité de gestion de l'événement. Hein, c'est une équipe qui craque rarement, même quand elle plie, mais elle ne rompt pas. On se souvient du match contre la Juve la saison dernière, mené 2-0, ils reviennent à 2-2. On se souvient du match également contre Manchester City cette saison, où sincèrement, sur le match
retour... Thibaut, je peux prendre les mêmes matchs inverses. Hein, à Burnley, à Southampton cette saison, ils mènent à la pause et ils perdent à chaque fois. Hein.
Oui, mais justement, après... Ça, c'est des matchs de championnat. Donc, disons que dans les matchs de championnat, peut-être que la lecture qu'il peut avoir sur les grands matchs de Ligue des Champions, c'est une atmosphère qui est différente. L'équipe n'est peut-être pas conditionnée mentalement de la même façon, parce que Tottenham, aujourd'hui, en Première Ligue, ça reste un gros club. Quand ils jouent contre Burnley, quand ils jouent contre Southampton, ils seront favoris. Alors qu'en Ligue des Champions, ça reste une équipe qui même avec une bonne équipe, un très grand entraîneur, qui est toujours dans les outsiders. Donc, quand il joue contre Dortmund, on se dit c'est du 50-50. Quand il joue contre City, on se dit tiens, c'est du 60-40, 70-30. Ils arrivent contre l'Ajax, où le match aller, ils sont en très grande galère, mais restent sur le poteau, alors que l'Ajax peut tuer le match dès le match aller. Ils sont menés au match retour, ils reviennent au score, ils passent devant. Il y a une capacité de gestion des émotions des joueurs de Tottenham et forcément transmise par Pochettino qui est liée bien sûr à sa lecture des matchs, mais qui est aussi liée à sa personnalité. C'est un entraîneur qui dégage beaucoup de calme. Vous parliez de son charisme tout à l'heure. Je pense que ça rejaillit sur l'ensemble de son effectif.
Alors il y a aussi un truc, Thibaut, et c'est ce que tu disais tout à l'heure également, Julien. Mais c'est vrai que le fait qu'il arrive à gérer bien les émotions de ses joueurs, c'est parce qu'il les connaît peut-être mieux que Klopp le connaît les siens. C'est-à-dire lui, il a pas changé d'effectif justement. Mais, c'est peut-être ça l'avantage qu'il a.
Mais les deux, Nico, les deux sont extrêmement forts dans la gestion d'un groupe par leur charisme naturel et leur capacité à fédérer. Combien de joueurs où ils partent généralement, les deux, ils partent avec un 11 de départ bien établi. Quand je vois le nombre de fois les joueurs qui sont rentrés en cours de match, la capacité, l'état d'esprit à faire la différence, on l'a vu avec Origi, on l'a vu avec Sturridge, on l'a vu avec Llorente, on l'a vu avec d'autres.
Lucas,
Lucas, c'est-à-dire que ces mecs-là arrivent à réunir n'importe quel mec autour d'un projet. Ils ont des fers de lance à l'intérieur du club qui sont hyper représentatifs, c'est-à-dire qu'ils laissent la main quand même à un mec comme Harry Kane qui est devenu le symbole de cette équipe de Tottenham, et de l'autre côté à des joueurs qui sont certes moins talentueux, mais Anderson, Milner, des joueurs comme ça où ils leur ont filé le leadership, et en même temps eux ils arrivent justement à fédérer un groupe, et c'est ça que je trouve exceptionnel. C'est hyper difficile à faire.
De tout ce qu'on dit, en fait, je pense que la différence principale entre les deux entraîneurs, après c'est en fonction des goûts de chacun, c'est que t'en as un qui est hyper fort dans sa capacité de réaction, de s'adapter à l'adversaire, de lire une situation, et je pense que Klopp est plus dans une espèce d'idéologie, et je le dis pas du tout au sens péjoratif, mais qu'il a une idéologie du jeu, quelque chose qui est peut-être plus un petit peu plus de l'ordre du dogme chez Klopp, mais qu'il a peut-être un style qui est beaucoup plus affirmé que Pochettino, qui lui aura plus tendance à savoir s'adapter.
Merci en tout cas Thibaut d'avoir été avec nous au 32-16. Tiens, accueillons Thibaut qui lui pour le coup est un petit peu plus Klopp. Salut Mathéo.
Salut. Ouais, écoutez, bonsoir à tous déjà.
Salut, Mathéo.
Concernant votre débat, moi j'ai un avis qui est pas forcément tranché parce que j'aime beaucoup ces deux coachs. Pour moi, ils ont deux registres différents et c'est vrai que j'ai une préférence pour Klopp et je vais l'étayer. Concrètement, déjà, je vais quand même féliciter Pochettino parce que c'est un coach qui, j'ai l'impression, prouve quelque chose sur la durée, en l'occurrence avec Tottenham. Il est là depuis longtemps, il fait progresser son équipe et au fur et à mesure des années, on note une progression dans l'équipe de Tottenham et il n'y a pas beaucoup de coachs qui arrivent à avoir une progression constante et croissante de cette façon. Maintenant, si je vous dis que je préfère Jürgen Klopp aujourd'hui, c'est parce qu'on parle d'un coach qui, pour moi, fait partie aujourd'hui des trois meilleurs coachs mondiaux. Un coach qui a réussi à prendre Dortmund et en faire une équipe de classe mondiale, et un coach qui a pris Liverpool, qui n'était pas une mauvaise équipe, Liverpool, qu'on se mette d'accord,
mais qui était au fond du gouffre quand il les prend.
Voilà. Voilà, qui était vraiment, et là, il les emmène deux fois en finale de Ligue des Champions.
Ouais,
alors, on peut parler de loser, de victoire, de tout ce qu'on veut, peut-être qu'il va reperdre, on sait jamais, mais faut quand même être factuel à un moment donné et dire que ce coach-là, il a pris deux équipes qui étaient des bonnes équipes mais qui n'étaient pas des grandes équipes et qu'il en a fait des grandes équipes au moment où il était le coach. Donc de manière très pragmatique, bravo Jürgen Klopp, peu importe le résultat de demain, on devra lui reconnaître ça factuellement, c'est un grand entraîneur. Ah. Et c'est vrai qu'en plus, sa personnalité, son charisme, fait que c'est aujourd'hui le plus grand entraîneur.
Mathéo, les deux entraîneurs, je pense, font progresser, c'est ça qui est notable, qui fait la qualité des deux entraîneurs, c'est que les deux font progresser leurs joueurs. Tu vois les joueurs avant et après leur passage avec Klopp et Pochettino, t'as l'impression que les joueurs progressent quand même pas mal et c'est quand même une des qualités principales d'un entraîneur, c'est cette capacité à améliorer la matière première.
Tout à fait, c'est pour ça que je dis que les deux, je les mettais assez similaires, mais c'est vrai qu'il y en a un qui, comme d'ailleurs tu l'as dit tout à l'heure Jonathan, qui aussi marque l'histoire de par sa façon de jouer, enfin l'histoire marque son sport actuellement par sa façon de jouer, une sorte de contre-dogme, voilà, avec le fait de on n'est pas dans l'anti-Guardiola, mais c'est vrai que le Jürgen Klopp, il évoluait par rapport à son jeu à Dortmund, et quand vous voyez des Liverpool City, on a vu une opposition de style, et c'est vrai que beaucoup de monde, moi le premier, rêvait un petit peu d'une finale Liverpool-Ajax, dans le sens où on aurait pu avoir cette opposition de style qui serait affichée avec un Ajax qui jouait plus de manière guardiolesque et un Liverpool de Klopp. Mais c'est vrai que pour moi, à travers son jeu et à travers, on parle quand même, voilà, faut pas oublier ce que c'est deux finales de Ligue des Champions. Je suis à la base, moi, supporter du Paris Saint-Germain, et je peux vous dire que si j'avais un coach qui m'emmenait deux fois d'affilée en finale de Ligue des Champions, avec ou sans victoire, je serais heureux.
Il y a aussi, faut aussi souligner l'importance des dirigeants, le côté culturel en Angleterre, où l'entraîneur est aussi un manager, il a la main mise sur toute la politique sportive, et aussi les dirigeants, ils prennent rarement.
C'est un peu moins vrai maintenant.
Mais c'est un peu moins vrai. Mais rappelle-toi Julien, la première année de Klopp, elle est pas si dingue que ça.
Et on a finit à la même place que la place où il a pris le club.
Voilà. Et les gens commençaient à dire oui, mais peut-être c'est pas l'homme de la situation, tu vois. Et on l'a laissé travailler quand même.
C'est vrai.
Est-ce que chez nous, ou dans des championnats, on l'aurait laissé bosser? J'en suis pas certain. Donc les dirigeants et le championnat anglais et ce qui va avec. Ouais. Permettent aussi à ces gens-là de pouvoir bosser dans une certaine confiance.
Merci à Mathéo d'avoir été avec nous. Julien, David, merci aussi d'avoir été avec nous.
Les gars.
Bonne finale
merci
à vous les mecs demain.
Merci les gars.
Belle finale de Ligue des Champions.
Régalez-vous
bisous
les gars.
Ciao.
Julien.
Bisous. Dans quelques instants, on sera avec Arnaud. Alors qui a une suggestion, une réflexion à faire sur ton t-shirt. Branchez-vous sur RMC Sport News. Vous verrez le t-shirt de Jonathan McCarthy. Mais c'est pas forcément une critique, hein, Jonathan.
Si, tu peux le dire. Il est dégueulasse.
Non, mais en fait, il est pas dégueulasse parce qu'il a la veste. Mais s'il enlève la veste, là, en revanche, ce sera une autre histoire.
Mais il va avec la veste.
Ouais, mais là, il a la veste. Ouais. Voilà. Bref, on vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC Live, sur l'application Direct Studio. Dans quelques instants, les infos du jour. On va notamment parler de l'AS Saint-Etienne, puisque ça y est, les Verts, visiblement, ont trouvé le successeur de Jean-Louis Gasset. Ils sont pas allés le chercher très loin, puisque ce serait Justin Printemps. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Qu'est-ce que tu cherches?
Vous êtes salaud.
Pourquoi on est salaud? On te demande ce que tu cherches dans ton téléphone. Il est où le problème?
J'arrête. Allez, continue.
On vous rappelle que
si un jour vous tombez sur le téléphone portable de Jonathan McCarty, vous tenez une mine d'or, les copains.
Ah bah là, je peux dire là, que, là, au niveau chantage, mon gars, tu peux te faire de l'oseille.
Panama Papers, c'est la rigolade à côté. Je l'annonce.
On vous rappelle que ce soir, dernier match de préparation de l'équipe de France féminine avant la Coupe du Monde qui débute dans une semaine. Eh bien, les Françaises se sont imposées 2-1 face à la Chine. Ce soir également sur RMC Sport 1 à 21h, j'ai rencontré un monstre. Alors un document avec les témoignages d'une cinquantaine de joueurs qui ont affronté et Cristiano Ronaldo et Messi. On espère que vous avez kiffé. Il y aura des rediffusions sur RMC Sport également, sur RMC Sport 1. Mercredi 21h, il y aura un autre document sur RMC Sport 1. Alors figurez-vous que pendant la finale, on va envoyer des caméras un petit peu partout, enfin des équipes de tournage un peu partout dans le monde, sur les quatre continents.
Génial.
On ira notamment dans le village de Sadio Mané au Sénégal. On suivra les supporters sud-coréens de Tottenham. On suivra la famille de Pochettino également en Argentine. Et on va suivre également l'itinéraire d'un mec qui est parti de Paris jusqu'à Madrid où aura lieu la finale en autostop avec son gamin de 11 ans. Donc
génial.
Là, c'est en cours de tournage en ce moment même.
Formidable.
Et ce sera mercredi soir à suivre, donc destin croisé autour de cette finale de la Ligue des Champions également. Et puis vous le savez aussi, autre rendez-vous, le 10 juin à Bauer, il y a le match de l'after. On vous rappelle les joueurs qui sont convoqués. On vous a déjà annoncé le début de la liste. Jérôme Roten, Denis Charvet, Brahim Asloum, Pierre Dorion, Simone Rovera, David Lortolari, Julien Laurence, Pierre Ducrot, Jean-Louis Tour, Kevin Diaz, Arthur Robert, Jérôme Thomas, Ludo Bragnac, Olivier Giraud, Anthony Quintela, le gagnant de l'After Academy, Franck Leboeuf, Florent Gautreau, Christophe Dugarry, et se joignent à la liste ce soir Stephen Brun, Laure Lepailleur, Rio Mavuba, Jonathan McCarty, Vincent Moscato et Steve Marley. Voilà, suite de la liste qui continuera de tomber dans les prochains jours.
Je ne vis que pour mettre une boîte à Denis Charvet.
Ah ouais?
Ah ouais.
Pourquoi?
Il
y a moyen qu'il t'en mette une aussi.
Ah non, le cochère, on va l'attaquer au genou.
Fais gaffe que Vincent il t'attrape pas. Il est bon, Vincent, il part au foot en plus.
T'as raison.
Ah, je sais pas du tout.
Si, si, il paraît qu'il est pas mal.
Jérôme Thomas me dit il est pas mal.
Qu'il est pas mal.
Sur les 10 premiers mètres.
Et je pense que tu vois, enfin, pour défendre sur lui, ça doit être un petit peu compliqué parce que je pense qu'à l'épaule,
paraît qu'il a une belle pointe de vitesse encore.
Ouais, par contre, je serais curieux de voir Jonathan, le niveau.
Bah, moi, je mets des coups, c'est tout, hein.
Ouais.
Pour longtemps, vite et, mais c'est tout.
Tiens, Arnaud, supporter du PSG, nous a appelé au 32-16. Et alors, il voulait réagir à ton t-shirt, Arnaud, parce que c'est vrai que c'est un sujet d'importance capitale. Salut, Arnaud.
Salut, Arnaud.
Ouais, salut, les gars. Salut. C'est la première fois que j'appelle en plus de 10 ans. Et je vous écoute tout le temps.
Ah bah écoute, bienvenue mon gars alors.
Merci. Je voulais faire une réflexion sur le heavy metal, c'est pour ça que j'ai appelé quand t'as parlé de heavy metal, Nico.
Bah, c'est plus Jonathan qui en a parlé d'ailleurs.
Pardon ?
C'est plus Jonathan qui en a parlé pour le coup.
Ouais, c'est vrai. Et pour le coup, en fait, je suis chanteur de heavy metal et je voulais juste dire que ça correspond à Klopp et à Liverpool parce que la première chose, dans un groupe de heavy metal, il faut énormément de boulot. En fait, c'est beaucoup de répètes, de travail perso et tout. C'est une horreur. En fait, c'est dingue. C'est ultra usant. Psychologiquement, c'est super dur.
Ah
et
bon,
en fait,
j'aurais pas pensé.
Au fur et à mesure.
T'es chanteur, c'est ça?
Ouais, exactement. Okay. Ouais, chanteur. On dit frontman pour les chanteurs de metal. Et en fait, ensuite, il faut une structure. Derrière, t'as la défense de Liverpool et les milieux, c'est la batterie. Ok.
C'est bon ça.
Ensuite, t'as les attaquants, c'est les solistes, guitaristes. Avec un chanteur, je dirais plutôt Firmino, avec un soliste Salah. Mais c'est vraiment ultra violent. C'est-à-dire que t'as pas envie d'y aller parce que tu sais que tu vas te faire mal. Mais tu vas vraiment te faire mal. Ça va être dur. Parce qu'il faut que tu fasses ce jeu-là. Et c'est un dogme. Oui, c'est une idéologie, c'est une façon de penser. Parce que quand tu fais ça, tu peux pas faire autre chose comme musique.
Tu peux faire des balades quand t'es un groupe de heavy metal quand même.
Attends, Arnaud, je vais te lire une déclat d'Jürgen Klopp qui date de novembre 2013. On lui avait demandé de s'exprimer sur Arsène Wenger, alors qu'il y a un jeu un peu plus léché, un peu plus posé.
Ouais.
Et alors Klopp, il déclarait, c'est vraiment quelqu'un, je l'aime bien, c'est Sir Arsène Wenger, mais il aime avoir le ballon, jouer au football, faire des passes, c'est comme un orchestre. Mais c'est une chanson silencieuse. Moi, j'aime mieux le heavy metal, avait-il dit.
Et il avait même dit, j'ai dit ça, c'est parce que je faisais référence à ce qu'il avait dit lui-même. Il a dit, moi, je veux que mon équipe soit comme une symphonie d'heavy metal. C'est lui qui le revendique.
Exactement. Et en fait, Jürgen Klopp, on pourrait dire que dans le groupe de musique, c'est pas forcément le manager.
C'est le bassiste.
C'est plutôt l'ingé son ou le réal. Celui qui va arranger les instruments pour qu'ils fonctionnent ensemble. Parce que dans le heavy metal, chacun est puissant. Que ce soit le bassiste, le batteur, le guitariste, le chanteur, c'est tous des ultra hardcore. Et il faut les faire aller ensemble. Mais il ne faut pas que ça tartine à droite, ça tartine à gauche, que ça fasse des petits solos ici, ça fasse la diva ici ou quoi que ce soit. Il faut que ce soit un bloc. Et quand tu regardes jouer Liverpool, quand tu kiffes le metal, tu vois, c'est vraiment le parallèle, quoi. C'est vraiment l'image du football métal.
Et t'as dit le batteur, c'est la défense, c'est ça, Arnaud?
Vous en parlez plus longtemps.
Arnaud, t'as dit le batteur, c'est la défense, c'est ça?
Le batteur pour moi ce serait c'est facile à dire parce qu'on parle des stars, mais ce serait Van Dijk, mais je mettrais aussi Müller.
Ouais,
tu sais, les mecs qui tiennent, parce qu'il faut tenir un rythme en fait, faut tenir un rythme.
Et moi je dirais que Van Dijk c'est la double pédale alors, parce que c'est le truc le plus compliqué et c'est le truc le plus compliqué, le plus important dans une chanson de heavy metal, c'est la double pédale d'une batterie. Et t'as vu la différence que Van Dijk a fait en arrivant à Liverpool, c'est lui qui a été un petit peu le facteur X de cette équipe.
Et Arnaud, tu sais ce que je vais te demander là?
Pardon?
Tu sais ce que je vais te demander là?
Non, vas-y.
Bah, chanter un truc.
Un truc?
Ah bah chante, je sais pas moi, ça ressemble à quoi?
Bah non,
les voisins, vas-y.
Le métal, il y en a un qui passe pas à la radio, qui gueulait tout le temps, et celui qui est un peu plus sympa, qui est Metallica, etc. Et d'ailleurs, non, je vais pas chanter parce que c'est nul, la radio, ça donnera rien. Mais je vais juste dire un truc, après je vais raccrocher là-dessus, je vais vous laisser bosser les amis. C'est que... tu sais, on parle de mental, de trac, d'émotion, etc. Le chanteur de Metallica disait toujours, avec toute la carrière qu'il a, il a dit ça il y a 2 ans.
C'est James Hetfield, c'est un grand monsieur.
C'est un grand, mais merci. C'est un des pères fondateurs. Et il dit, si t'as pas le trac avant de monter sur scène, il a dit ça avant d'aller aux arènes de Nîmes à Nîmes. Si t'as pas le trac avant de monter sur scène, ne monte jamais sur scène. Parce que ça veut dire que tu respectes pas ton métier. Et ça, c'est important parce que le trac va te pousser, mais au taquet. Et si tu prends les choses à la légère, c'est pour ça que je pense que Liverpool va gagner et que quelque part il y aura du romantisme dans le jeu de Pochettino et dans Tottenham. Ce sera du romantique, ce sera du Led Zeppelin, ce sera du Pink Floyd, ce sera du tout ce que tu veux, du Guns.
Les Beatles, plutôt, je dirais. Les Beatles. Ça fait penser aux Beatles.
Super mélodie qui passera, mais Jürgen Klopp va gagner, c'est sûr.
Eh ben merci beaucoup Arnaud, très belle analogie en tout cas.
Bravo Arnaud.
Merci Arnaud.
C'est quoi ton groupe? C'est quoi le nom de ton groupe?
Rising hand for Elijah, une main levée pour Elijah, main levée, le point plutôt rébellion, hein, bien sûr.
Merci Arnaud, je suis pas sûr qu'avec Nico on écoutera du heavy metal, mais bon, pourquoi pas. Bon, bah, ouais.
Mais je vous adore tous et je vous remercie parce que j'ai donné beaucoup de biberons à mes 2 enfants en vous écoutant le soir et en replay le matin très tard dans la matinée et très tôt dans la nuit aussi.
Envoie-moi le nom de ton groupe sur Twitter, on le repostera.
Merci mec.
Salut Arnaud.
Salut à tous. Arnaud, merci d'avoir été avec nous en tout cas. Merci. Bonne soirée Arnaud.
Je vous en prie.
Ciao ciao.
Merci à vous aussi. Au revoir.
Voilà, c'est intéressant ce qu'il dit. Voilà, ces comparaisons, etc.
Bah, c'est surtout Klopp qui l'a fait. Hein. Lui, quand on lui avait demandé, je me rappelle, c'était une très longue interview où il parlait un petit peu de son identité de jeu, où il disait que pour lui, le football à la Barcelonaise, c'était un petit peu une symphonie de musique classique qui était certes très compliquée, très intéressante, mais que lui, ses goûts, c'était vraiment ses propres mots, une symphonie de heavy metal. Ça se reflète parfaitement dans ce qu'on voit quand on regarde ses équipes jouer.
Alors Klopp, c'est le heavy metal. Ghislain Printon, ce serait quoi comme style de musique du coup?
Ah,
la variété.
Non, vous êtes dur. Moi, je pense. Écoute, je vais parler dans la saison parce que.
Non, mais attends, d'abord on donne l'info. Jean-Louis Gasset quitte les Verts, ça vous le saviez. Communiqué de Saint-Etienne dans l'après-midi aujourd'hui. Bernard Caillazeau et Roland Romélie ont rencontré aujourd'hui Ghislain Printon. Les échanges ont été constructifs et une nouvelle réunion sera organisée en début de semaine prochaine avec l'entraîneur et ses conseils pour régler les derniers détails dans la sérénité. Donc Ghislain Printon devrait être le successeur Jean-Louis Gasset à l'AS Saint-Etienne, lui qui était déjà dans le staff de Jean-Louis Gasset.
Franchement, je vais vous dire, j'avais une très mauvaise image de lui. J'avais l'image de lui sur le banc en Corse à hurler et à faire jouer ses équipes comme des bouchers. Et je le voyais comme un adjoint et rien de mieux. Et pour lui avoir parlé assez longuement dans la saison, c'est quand même quelqu'un qui a pas mal d'idées sur le jeu, qui a pas mal qui a envie de mettre des choses en place, j'ai l'impression. Je pense que l'effectif qu'il va avoir à Saint-Etienne, vu que tous les joueurs de qualité veulent rester si Printemps reste, il aura un effectif de qualité. Donc je suis assez curieux de voir. Et après tout, pourquoi pas? S'il fait autant l'unanimité auprès de l'ancien entraîneur, auprès des cadres du vestiaire et auprès de la cellule dirigeante, c'est qu'il doit avoir quelque chose qu'on ne sait pas. Donc moi, j'ai envie que Ghislain Printon prenne la tête de l'équipe de Saint-Etienne et je m'attends à voir quelque chose de très bien, vu que tout le monde en pense le plus grand bien.
Il y avait une rumeur ces dernières heures qui annonçait Jocelyn Gourvennec favori. Je crois que tu n'étais pas très chaud, Ludo.
Bah, si l'image que tu veux donner pour la Saint-Etienne en termes d'ambition, c'est-à-dire que pour une fois tu reviens sur la scène européenne, il y a un petit élan qui s'est recréé de nouveau et que ton premier choix ou ton deuxième choix, c'est de prendre un entraîneur qui vient de finir dernier du championnat, pour moi ça me paraît pas particulièrement cohérent. Donc c'est juste une question d'image, d'ambition. J'ai pas été séduit par ce qu'il a fait à Bordeaux, j'ai pas été séduit par ce qu'il a fait à Guingamp.
Après Guingamp, il fait pas la saison tout seul non plus, il est malade, quoi.
Il a connu, Gourvenec a connu une hype assez extraordinaire. La une de SoFoot parce que, je sais plus, il allait à la fête de l'UMA, il aimait un peu l'orgue alternatif, machin et tout, juste parce que il a une personnalité un petit peu à part. Mais quand on regarde juste, quand on regarde juste son travail en tant qu'entraîneur, très franchement, il y a la première partie qu'il fait à Guingamp qui est intéressante. Mais après, on l'a vu, Ludo, t'as totalement raison. À Bordeaux, ça a jamais marché. À Guingamp, ça a
fonctionné. À Bordeaux, il y a rien qui marche, hein, les gars, en ce moment.
Non, mais quand même, quand il arrive à Bordeaux, il avait une certaine hype. On disait que c'était un entraîneur qui avait le niveau européen.
Rien fonctionne en ce moment.
Tu regardes l'effectif qu'il avait, là, il avait quand même un effectif qui était plutôt correct. Il a eu les mains qui étaient relativement libres pour le mercato. On rappelle l'argent que Bordeaux a mis pour prendre Alexandre Mendy, qui était un choix de Gourvenec. Et on a vu ce que ça a donné. Donc, à Bordeaux, il avait la liberté d'action, ça a pas marché. À Guingamp, ça a fonctionné 2-3 matchs, le fameux choc psychologique. Et très franchement, je veux pas insister là-dessus, mais si tout le monde, les joueurs, les dirigeants et Jean-Luc Gasset disent que l'homme de la situation c'est Ghislain Printemps, pourquoi ne pas les croire? Et
est-ce que c'est pas aussi tombé dans la facilité? Moi ça m'embête justement que les joueurs justement
ils liraient leur destin à Printemps, alors
parce qu'ils sont parce qu'ils sont dans le confort.
Pas à Printemps, Gasset.
Parce qu'ils sont...
Non. Mvila, il a dit, si c'est pas Printemps, il se casse.
Ouais. Non, il avait dit, si Gasset s'en va, je lis mon avenir.
Et il a aussi dit que si c'était pas Printemps, il partait. Bon. Pareil.
Mais c'est être dans le confort, c'est-à-dire que ces joueurs-là se sont habitués, que ça soit Jean-Louis Gasset ou Ghislain Printemps, sont des personnes, tu sais, c'est le bon père de famille du sud,
un peu
tu sais, qui sait un peu manier la caresse, mais aussi
tu sais, les papas rebeux quand on voit les babouches
si tu veux, il y a une certaine facilité à se dire voilà, on est avec eux depuis 2 ans, ça roule, on remet rien en cause, voilà, c'était un virage important pour la Saint-Etienne, le fait de passer un cap en étant européen. Je dis pas que Ghislain Printemps fait pas l'affaire, mais peut-être qu'il est pas à même aujourd'hui au vu de son parcours et de son CV, je sais pas si la marche est pas un peu trop.
Après,
on l'a souvent vu en doublette. Moi, j'ai trouvé son travail plutôt appréciable du côté de Bastia. Mais Saint-Etienne, là, tu vas jouer la Coupe d'Europe.
Je donne juste son bilan avec Bastia, parce qu'il a entraîné finalement Bastia.
C'est pas si mal que ça.
En Ligue 1, il fait 22 matchs, 7 victoires, 4 nuls, 11 défaites. Un Bastia qui était pas au mieux non plus à l'époque, d'ailleurs, on se souvient.
Juste, on oublie juste une étape, une donnée qui pour moi, c'est la donnée essentielle de ce dossier-là. C'est que Saint-Etienne, avec la Ligue des Champions, aurait eu l'occasion de passer dans une autre dimension. On sait qu'ils cherchent à ouvrir leur capital.
Mais pourquoi la Ligue des Champions? Ça n'a jamais été un objectif.
On sait que Saint-Etienne cherche à ouvrir son capital.
Mais pourquoi tu me parles de la Ligue des Champions?
Écoute-moi. Je pense que si Saint-Etienne s'était qualifié en Ligue des Champions, d'une part, je pense que Jean-Luc Gasset serait resté. Et je pense qu'il aurait été plus aisé pour Monsieur Caiazzo de trouver des investisseurs qui auraient apporté franchement des moyens.
Est-ce que l'avenir de Jean-Louis Gasset est lié à moi? Il est plus au niveau de la santé, le côté.
Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi ses rapports avec les dirigeants familiaux.
Exactement.
Oui, mais Ligue des Champions, pas c'est pas ça qui va assainir tes rapports.
Non,
mais enfin, ça n'a rien à voir.
Non, mais je.
Le mec, il a les problèmes familiaux. Santé,
exprès de pas écouter ce que je dis,
mais
en
non,
fait.
Mais
c'est
si.
Chiant. Je te dis que si Saint-Etienne avait eu la Ligue des Champions, on sait que là, Caiazzo, il a passé 2 semaines aux États-Unis à chercher des investisseurs. Et forcément, quand tu présentes un club, que tu leur dis, on va avoir les droits télé de la Ligue des Champions, on va avoir l'exposition de la Ligue des Champions. On a les joueurs qui sont bons, qui ont gagné la Gambardella. On a Nordin, le petit défenseur là.
Oui.
Saliba. Qu'on va mettre en Ligue des Champions, ça représente un capital plus important à valoriser, et je pense que Caiazzo aurait plus facilement trouvé à ouvrir le capital à des investisseurs plus importants, et que les moyens auraient été plus importants.
Dans quel monde ça existe des investisseurs qui viennent quand ils connaissent la relation des deux, qui viennent et qui sont minoritaires dans le capital? Mais t'as vu jouer ça où, toi? Il y a jamais aujourd'hui un
si ça se fait à l'Atlético de Madrid.
Voilà, t'as jamais un club qui vient, t'as jamais un mec qui vient aujourd'hui qui met la sur la table et qui est pas décisionnaire.
Parce que si tu regardes sur le moyen terme, Saint-Etienne, c'est le club. Quand t'es un investisseur et que tu veux te faire de l'argent sur le moyen terme, je pense que Saint-Etienne c'est le club le plus viable. Il y a le bassin de population.
Mais ça fait combien de temps qu'ils ont ouvert le capital? Avec eux deux à la tête du club, c'est pas possible. Avec un actionnaire minoritaire qui peut pas avoir la main sur certaines décisions, ça me paraît très compliqué d'ouvrir le capital.
Et tu penses pas qu'avoir la Ligue des Champions, ça aurait été un avantage comparatif qui aurait été un peu plus important qu'avoir l'Europa League?
Mais c'était pas prévu. Où est-ce que t'as vu que Saint-Etienne, même à la mi-saison, il était
pas
prévu
qu'il joue
la Ligue
des Champions?
Mais c'est déjà exceptionnel.
Mais je t'ai pas dit que c'était prévu. Je t'ai juste dit que là, ils auraient pu, avant le match contre Montpellier, on croyait tous que Saint-Etienne allait avait de grandes chances de se qualifier en Ligue des Champions. Tout le monde disait Lyon va flancher, Saint-Etienne ils vont battre Montpellier et ça va basculer. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'il y avait une étape qu'ils ont loupée. Mais on ne dit pas que c'était prévu, mais ils auraient pu passer une étape à ce moment-là.
Mais la bonne étape, c'est qu'ils fassent l'Europa League. C'est très bien comme ça. Elle est très bien cette étape-là.
On vous mettra pas d'accord, les gars.
Je t'ai pas dit que c'était pas bien. Hein. C'est bien aussi.
Reste cette question en suspens. Du coup, si c'est lui, si c'est bien lui, printemps passera-t-il l'hiver? Voilà. On va. Voilà.
C'est basique. Mais comme une hirondelle ne fait pas le printemps, on ne fait jamais. Voilà.
Non, non, c'est bon. Je m'en dispense pas ça.
Allez, on revient juste après.
Vous êtes tout de la gloire, les
amis. Jonathan McCarley.
RMC. L'Afterfoot. Nicolas Villas.
En compagnie de Jonathan McCarthy et de Ludovic Obrania, quelques infos du jour. Les gars, on vous rappelle, hein, dans une semaine, début de la Coupe du Monde féminine, qui sera à suivre sur RMC Sport, qui aura lieu en France. Vous le savez également, les Françaises, et qui se sont imposées face à la Chine de Buzyn, ce soir. Dernier match de préparation avant le début du Mondial, pour les Françaises. C'est officiel. Alors, on le savait, c'était le secret de Polichinelle, mais Dall'Oglio, le nouvel entraîneur du Stade Brestois. 55 ans, Olivier Dall'Oglio, qui est libre depuis son départ de Dijon, c'était en cours de cette saison, qui succède donc à Jean-Marc Furlan qui est parti du côté de la JOCR.
C'est le meilleur remplaçant pour Jean-Marc Furlan.
Ouais, il a un côté très joueur.
Il y avait Pellissier qui pouvait être un candidat.
Il était candidat aussi.
Intéressant.
Des rumeurs. Mais Dall'Oglio, c'est la continuité. C'est un mec qui aime bien faire jouer ses équipes. C'est un peu un esthète. C'est parfait. Après, rien n'arrive à la cheville de Jean-Marc Furlan, il faut le dire, mais c'est très bien.
Écoute, là, il va se mesurer. Il arrive à la GIA, on va voir.
Bah t'as tellement pris des gros salaires là-bas qu'ils ont plus une thune pour faire grand chose les pauvres.
Il y a un chantier, on va voir s'il est à hauteur du chantier.
Et du coup Amiens, moi je suis un peu inquiet pour Jean-Marc, pour la maison du whisky, pour Amiens. De perdre Pellissier, je pense que c'est une perte qui sera bien plus importante que ce que le
Ah bah vu la gestion du dossier Pellissier, en tout cas ils n'auront pas fait grand chose pour qu'il reste. Hein.
Bah et c'est totalement stupide parce que c'est quand même un entraîneur. Enfin je sais que après je parle à un convaincu oui, Nico, mais c'est quand même un bon entraîneur.
Oui, mais il y a une chose qui est vraie aussi, on l'a suffisamment dit pour d'autres clubs. Si les rapports sont pas au mieux en interne, ça sert à rien de forcer les choses non plus. Hein. Donc autant qu'ils partent sur autre chose.
Hein. Apparemment Amiens ont appelé Enze. J'ai vu.
Ouais, j'ai vu qu'ils avaient tenté le coup, paraît-il aussi.
Bon, il a pas dû les calculer, mais.
Pierre Gabriel va partir à Mayence, Monaco qui a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord pour le transfert du joueur de 20 ans. Les deux clubs travailleront dans les prochains jours pour finaliser le transfert, a annoncé l'AS Monaco. Voilà, un joueur qui s'en va et qui part du coup en Allemagne.
Il faut qu'il dégraisse par dizaines.
Ils n'ont plus que 73 joueurs sous contrat. Ouais.
Non mais il y a plein de joueurs, tu te demandes... Il a fait quoi, Jebel, cette saison, par exemple? C'était un transfert dont on a beaucoup parlé été.
Ouais, il y a eu pas mal de jeunes qui ont été blessés, Pellegrini, lui aussi, notamment. Autre joueur qui va quitter la Ligue 1 pour l'étranger, c'est Diego Carlos, qui part au FC Séville. Communiqué du FC Nantes cet après-midi. Accord de principe pour le transfert du Brésilien à compter du 1er juillet 2019, a-t-il déclaré.
Qui sera l'entraîneur du FC Séville?
Bah, c'est pareil, on sait pas encore, non plus.
Voilà. Est-ce que c'est Rudy Garcia?
Quoi, tu le sens comme ça, toi?
Mais non, mais je sais pas, apparemment, c'était une rumeur, c'est un nom qui circule du côté de Séville.
Il y a pas mal de blagues qui circulent à Séville en ce moment,
Laurent Blanc?
Je sais pas.
Et tu le vois comme ça toi aussi?
Moi je le vois comme ça. Ouais.
Pourquoi? Mais tu le vois ou t'as des infos?
J'ai pas d'infos particulières. Je te dis que c'est
le profil. T'as des infos, t'en as
le
pas.
Le profil correspond. J'ai entendu son nom du côté de Séville et je pense que le mariage serait pas inintéressant.
D'accord. Alors vous savez que Tourelle Weigl, il l'a déclaré cette semaine, une nouvelle fois, voilà, il veut le milieu de terrain de Dortmund, mais Dortmund ne veut pas lâcher son milieu de terrain justement. Marc Zorc, le directeur sportif de Dortmund, a déclaré à la chaîne VAS, je sais pas comment on dit d'ailleurs, WAS. Julian a un contrat à long terme avec nous et nous n'avons aucune intention de changer quoi que ce soit à ce sujet, a-t-il déclaré. Voilà, bah forcément il va faire monter les enchères, mais il veut peut-être vraiment le garder, hein, Zorc, hein, très certainement d'ailleurs même.
Peut-être.
Ouais, il est très dur. Il est très dur en affaires.
Oui, il va pas être facile à convaincre.
De toute manière, deux choses sur ce sujet-là. Il faut voir ce qui va se passer au niveau de la direction sportive du Paris Saint-Germain. Et il va falloir voir l'enveloppe dont dispose vraiment le PSG. Saber nous a dit c'était entre 100 et 120 millions. Mais t'as pas juste un milieu de terrain à acheter pour le Paris Saint-Germain. T'en as au moins deux. Si
après, il y a des joueurs qui vont très certainement partir aussi. Donc c'est hors.
Donc t'as au moins deux joueurs à acheter au milieu de terrain. C'est le plus gros chantier du PSG.
Encore une fois, s'il te plaît. Weigl, tout jeune talentueux qu'il est, cette année il a pas joué tous les matchs parce que devant lui t'avais deux mecs plus expérimentés qui ont fait une grosse saison. Donc c'est un joueur qui est en pleine progression au vu de son jeune âge et qui vient de jouer, il a pas joué énormément cette saison. Est-ce que c'est le choix utile à l'heure actuelle pour le Paris Saint-Germain? Et j'en suis pas certain.
En tout cas lui le veut.
Ah bah lui le veut. Après
la priorité ça doit être Alan. Il y a un joueur, tu sens qu'il arrivait au bout d'un cycle avec son équipe. Voilà, ça va coûter un peu cher, mais je pense que ce joueur-là peut te faire passer un cap.
Alors hier, on vous l'a annoncé, hein, c'est officiel, le départ de Spalletti du côté de l'Inter Milan. Aujourd'hui, l'Inter, alors très tôt, hein, 6h du mat, les mecs, ils ont officialisé la signature d'Antonio Conte. Nouvel entraîneur donc de l'Inter, il a signé jusqu'en 2021. Alors il s'est notamment exprimé sur le très compliqué cas Mauro Icardi. Il a déclaré « Nous évaluerons toutes les situations et prendrons les meilleures décisions pour le club. L'équipe est la chose la plus importante pour le présent et pour l'avenir. Je n'ai eu aucun contact avec lui. Je viens juste de prendre la température », a-t-il dit. Alors on sait d'ailleurs, hein, c'est également ce qui circule en Italie, on en a parlé avec Simone Rovera. Paraîtrait-il qu'Antonio Conte veut pas continuer avec Icardi, hein. Ça l'a un peu gonflé, tout ce qui s'est passé là, ces histoires là entre lui, sa femme qui est aussi son agent, ça a été.
Et il faut qu'il parle à Wanda.
Ouais. Bah, non, mais... je sais pas si c'est lui qui va lui parler directement.
Ouais. Mais est-ce que je suis le seul à trouver ça un peu choquant qu'Antonio Conte soit entraîneur de l'Inter?
Pourquoi choquant?
Joueur emblématique de la Juve, entraîneur emblématique de la Juve, de le voir atterrir chez l'ennemi comme ça.
Après, franchement, j'ai l'impression, moi, en Italie, les mecs changent tellement de club souvent.
Ouais,
que...
ouais, mais Juve-Inter, c'est quand même la rivalité, bon. Quoi.
Enfin, moi, je me dis Inter Milan, c'est une rivalité de ouf, j'ai l'impression que...
Non, la rivalité, c'est Juve-Inter,
oui,
Nico.
C'est vrai, c'est vrai.
Le derby d'Italie, c'est Juve-Inter.
Je crois que ces mecs-là, c'est des fauves surtout, et quand ils bossent, ils bossent pas, c'est comme des lions en cage, donc, peu importe.
Mais parce que
tu
souvent, avait été
tu vas là où il y a, tu vas là où il y a du taf, hein.
Ouais, mais on parlait de lui pour retourner à la Juve à un moment. Du coup, voilà, je sais pas. Moi, ça me chagrine un peu de le voir entraîner l'Inter, mais bon.
Interview de Rivaldo au Mundo Deportivo. Alors, l'ancien Ballon d'Or, ancien joueur du Barça également, qui milite pour le retour de Neymar à Barcelone. C'est mon humble avis, dit-il. Le joueur qui manque à Barcelone pour être à nouveau vainqueur de la Ligue des Champions, c'est lui. Il a de la personnalité et beaucoup de qualités pour reconquérir tous les fans de Barcelone et être aussi le meilleur au monde, a déclaré Rivaldo. Voilà.
Bah, qu'il attend encore un an, alors. Nous, on veut le garder encore une année. On veut voir sur la troisième année ce qui va.
Franchement, toi, t'imagines un retour de Neymar au Barça?
Non.
Franchement, avec toutes les affaires qu'il y a
non,
eu,
il part, il ira au Real.
Ouais.
Je pense. Mais après, moi, je souhaite une seule chose, c'est qu'il reste au Paris Saint-Germain, qu'il reste en Ligue 1, parce que si le PSG avoir une chance de gagner la Ligue des Champions, c'est en s'appuyant sur un joueur hors norme qui est comme Neymar.
Ah, c'est bien. T'arrives à un passage intermédiaire, c'est-à-dire en fonction des contrats. Voilà, ça sera la troisième année.
Exactement.
Ça fonctionne, ça fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, ça fera trois ans. Je fais le bilan, comme dirait Jackie Benji et Negmaron. Ouais. Et après, si ça marche pas, bah peut-être il sera l'occasion
c'est
de le
vendre. Les gars, mais faut... avec un t-shirt Guns N' Roses, vous me citez ça, c'est ce genre de truc. Il y a une différence culturelle qui est quand même.
Surtout que c'est pas de ta génération. T'es de quelle année, toi?
Les Guns, c'est pas de ma génération.
Non, mais t'es de quelle année?
86.
Bah voilà, nous on a grand. Ah bah si, je suis connu, Negmaron.
Respecte le secteur, s'il te plaît.
Je vais rester avec mon char des Guns, je préfère.
Ouais, c'est pas pareil, hein. Il y a des choses qu'on subit aussi. Là, qu'on le matraque, tu vois, à longueur de journée au niveau sonore. Jérôme Boateng qui est revenu dans Kicker sur son transfert raté au PSG l'été dernier. Alors très amer, hein, Jérôme Boateng qui a du mal à revenir. On m'avait dit que je pourrais partir si le club me convenait et que le montant de l'offre était satisfaisant. Au cours d'une réunion de dernière minute, ils m'ont soudainement dit non et je n'étais plus autorisé à partir. Dans ma tête, j'étais déjà parti. Si vous avez une promesse aussi sûre et qu'une somme suffisante est versée mais que soudain on vous dit non, quelque chose se brise en vous. C'est vrai que alors là-dessus, toi, t'as peut-être vécu ça d'ailleurs, toi personnellement ou autour de toi, mais c'est vrai que t'as connu toi des mecs qui vraiment vrillaient derrière à cause d'un transfert manqué. Ou du moins qui ont du mal à s'en remettre finalement.
Bah oui, parce que tu te projettes, tu es dans la perspective. À ce moment-là, il avait besoin de changement, le père Boateng, et il s'est projeté sûrement au Paris Saint-Germain ou ailleurs. Apparemment, il parle du Paris Saint-Germain, non?
Ouais.
C'est ça.
Ouais, c'est ça.
Donc le projet en plus avait l'air à la hauteur de ses ambitions. Donc ouais, une fois que tout est établi, tu commences à regarder la maison, le truc. Après, t'es au Bayern de Munich, quoi. Tu vois, t'es pas, c'est pas comme si t'étais dans un club moyen et que un transfert avorté, c'était l'occasion de ta vie. Le mec, il a l'occasion de faire des, oui,
peut-être pour le Paris Saint-Germain.
Heureusement aussi, peut-être.
Heureusement pour le Paris Saint-Germain que ça ne se soit pas fait.
Après, tu sais pas, ça se trouve, il aurait été bien.
Parce que ça fait quand même 2-3 saisons qu'il est cramé. Et là, d'ailleurs, t'as vu ce qu'il a dit, Ulionès, c'est très très dur ce qu'il dit. Il dit, Boateng est un élément extérieur à la famille, quoi. Il l'invite à vraiment se prendre ses clics et ses claques et à partir très vite. Ça a été un super défenseur, probablement un des top 3 défenseurs mondiaux à son poste, mais ça fait quand même 2 ans, t'as l'impression qu'il n'y est plus, quoi. Je sais pas si c'est ses blessures, je sais pas parce qu'il est encore jeune, mais très bien que le Paris Saint-Germain ne se ressent pas en cette espèce de maison de pré-retraite, de gogo qui aligne les salaires incroyables pour des joueurs qui sont sans aucune, enfin je le dis pas du tout de manière péjorative, mais qui sont des has-beens.
Non mais
qui, enfin, du plus haut niveau.
Non, mais c'est, je te rejoins sur ce point-là. C'est, je pense qu'il y a mieux, à faire. Il y avait déjà mieux à faire la saison dernière, et il y a encore mieux à faire cette année sur des jeunes beaucoup plus talentueux. Il apporte beaucoup moins de certitude qu'il y a 3 ans. Voilà.
Autre information également qui est tombée dans la journée, Bernard Tapie qui est accusé d'avoir acheté un match de C1 en 1992. Alors, révélation de l'ex-sélectionneur de la Roumanie qui s'appelle Cornel Dinu, qui était secrétaire d'État au sport également et qui s'est exprimé chez Mediapart. Il affirme avoir rencontré Bernard Tapie qui était président de l'OM à plusieurs reprises au début des années 90. Le match entre l'OM et le FC Bruges est le match qui est visé justement par ces accusations. L'arbitre de la rencontre était un Roumain. Dinu, il aura arrangé la rencontre entre Bernard Tapie et cet arbitre-là. Alors en fait, Tapie aurait demandé à cet arbitre de ne pas mettre de carton aboli pour pas qu'il soit suspendu pour l'éventuelle finale face à Milan. Il aurait donné 20 000 dollars, c'est ce que déclare donc ce fameux Cornel Dinu. Et Bernard Tapie, lui, a démenti ses accusations.
Voilà. Il commence à nous fatiguer là avec les si et s'il avait demandé, il aurait apporté des preuves. Vous fermez vos
exactement,
gueules,
ouais, c'est
fermez
ça, ouais.
vos gueules. Vous commencez à nous fatiguer.
C'est trop facile.
Et le mec est mal, le mec est malade, le mec est en procès. Foutez-lui la paix. C'est bon, ça va. À un moment donné, soit vous apportez des preuves, soit vous la fermez.
Et des vraies preuves, du factuel, des échanges, enfin des textos, des relevés téléphoniques qui sont mandatés par la justice, c'est pas juste des rondis.
Mais c'est quoi à force de rajouter comme ça des trucs de il aurait.
Après, ça peut être considéré comme étant un témoignage à charge. Hein. C'est pas.
Mais non, mais
un témoignage
devient,
court,
si tu veux,
c'est parole contre parole.
Il y a tellement de choses qui s'accumulent, qui sont pas prouvées, qu'à un moment donné, ça en devient.
Et tu sais ce qui est énervant, c'est que toutes ces choses qui s'accumulent, qui sont sans preuve, ça salit le nom de Bernard Tapie. Donc au final, peut-être qu'il y a des choses qui sont vraies, mais pour le quart des choses qui sont vraies, si les trois quarts sont fausses, je pense que le préjudice est assez énorme pour Tapie.
Et une info qui vient de tomber également il y a quelques minutes, info de nos confrères de West France qui annonce que Gilles Sergent, le président de Caen, pourrait passer la main. Oui. Voilà, il pourrait quitter la présidence du Stade Malherbe de Caen, qui on le rappelle est relégué en Ligue 2.
Il va retourner au MEDEF. Saison.
Ça j'en sais rien, tu lui demanderas. Mais
parce qu'il était longtemps au MEDEF.
Oui, je
m'en dis. Ouais. Non, mais il a fait n'importe quoi depuis qu'il est arrivé. Il faut le dire. Et il fait partie de cette longue liste de gens brillants qui ont eu des responsabilités à des échelons brillants qui sont devenus totalement fous en prenant un club de foot. Mais voilà, on connaît le schéma. Ça arrive à beaucoup de gens.
Les gars, merci.
Merci Nico.
Merci mon Nico.
Bravo pour la qualité de vos analyses et pour la qualité de vos écoutes, de vos t-shirts également et de vos chemises. Surtout toi, Jonathan.
Merci Nico.
Non je déconne, il est dégueulasse ton t-shirt.
Mais je te le prêterai.
Non, je te
vais l'avoir.
Non, non, c'est bon. Ouais, si on remarque, ça peut aider à. Quand je fais du bricolage, c'est comme ça. Et encore.
Ouais, il est magnifique.
Et merci
ça va,
Jérôme Thorez.
Il y a Jérôme Bretagne dans cette émission. Lui, il est habillé un peu comme, tu vois.
Merci Daniel Torres.
Habillé, hein.
Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales qui nous ont aidé à préparer cette émission. Et puis on se retrouve demain, bien sûr. Finale de Ligue des Champions. Autant vous dire que le dispositif il sera pas exceptionnel, il y a quoi de plus qu'exceptionnel?
Extraordinaire.
Bon, je sais pas si c'est mieux. T'as pas un mot de ouf là?
Pour exceptionnel, non.
Il sera concupiscent. Ça n'a rien à voir, mais j'adore ce mot. À demain. Bisous.
RMC, l'After Foot.